Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint.
Apolline Verlon.
Bonjour à toutes et à tous. À l'approche de l'été, je vous propose de vous plonger dans une saga familiale qui va vous emmener jusqu'en Norvège. Après Le cimetière de la mer, succès de librairie dans de nombreux pays, vient de paraître la suite Les héritiers de l'Arctique aux éditions Le Bruit du Monde, dans une traduction de Loumaël Besançon. Un deuxième volume qui continue de raconter les aventures et les mésaventures du clan Falck, une famille norvégienne puissante qui se déchire sur fond de succession et de lutte de pouvoir. Un univers de feu et de glace que l'on doit à l'écrivain Aslak Nor, qui après avoir grandi à Oslo, fait ses armes en Bosnie et couvert le Moyen-Orient comme grand reporter, s'est désormais installé à Marseille, dans le sud de la France. C'est là, sur sa terrasse face à la mer, que je l'ai rencontré pour un entretien en français et où il est question entre autres d'Alexandre Dumas, d'espionnage, de Russie et des nouveaux enjeux écologiques en Norvège. Ne bougez plus, c'est tout de suite. Bonjour Aslak Nor, merci beaucoup de nous recevoir ici à Marseille, chez vous, où vous êtes installé, ce qui n'est pas si courant qu'un écrivain norvégien choisisse cet endroit de la France. Qu'est-ce que vous aimez tant ici, même si en effet je comprends de votre terrasse, là on voit un magnifique paysage, mais qu'est-ce que vous aimez ?
J'adore l'esprit de Sud, j'adore le gens très chaleureux, j'adore en fait la Méditerranée. Mais en même temps, Marseille, c'est un endroit particulier. Hein. C'est une réputation pour être un peu dure et avec tous les problèmes de société qu'on connaît très bien. Mais en même temps, c'est vraiment un endroit très proche de mon cœur.
Et vous voulez dire que c'est très éloigné, peut-être aux antipodes de votre Norvège natale, de Oslo où vous avez grandi?
Oui, bien sûr, ça ne ressemble pas trop, mais quand même, il y a de certains types de choses qui ressemblent un petit peu. Par exemple, Marseille, c'est, à la base, c'est une ville maritime. Et la Norvège, avec aussi la vie maritime, est une source de richesse et d'importance. Et je pense qu'en ce sens-là, pour toutes les différences, Marseille ressemble un petit peu.
Ça, c'est vrai. On va en parler dans un instant avec vous, Aslak Nor. Encore un mot. Ici, on est presque en face du château d'If, qui est un château, un lieu littéraire éminemment célèbre, où a été situé le comte de Monte Cristo. Est-ce que c'est par hasard ou est-ce que vous avez en effet un goût particulier pour la littérature française du 19e siècle?
Quand j'étais jeune, j'adorais les histoires de le grand classique du 19e et peut-être surtout Alexandre Dumas, mais aussi Jules Verne, puis Victor Hugo peut-être, mais un peu plus tard. Mais je pense que j'ai lu le Comte de Monte Cristo en une version un peu plus courte, la première fois quand j'avais peut-être 10, 11 ans, je ne suis pas sûr. Et ça me marquait. J'adorais cette histoire et je pense qu'honnêtement, la scène quand Edmond Dantès échappe de Château d'If, je pense que c'est peut-être la scène, c'est la meilleure scène dans toute l'histoire de la littérature de suspense en fait. Même si c'est impossible, mon but est toujours d'essayer d'écrire une chose qui mette le lecteur dans le même sentiment que moi quand je lus cette passage pour la première fois.
Donc par exemple, Alexandre Dumas, ça peut être un écrivain qui vous a donné envie de devenir romancier?
Bon, je viens d'une famille de la littérature, mon père est écrivain et je pense que c'était absolument nécessaire pour moi de faire certains détours avant que je comprenne qu'en fait, je voulais écrire. Donc, quand j'étais pendant ma jeunesse, je n'avais aucun rêve d'être écrivain, en fait. Ça, c'était très loin. J'avais plutôt l'envie de devenir un joueur de foot. Mais peu à peu, j'ai compris qu'en fait, tous les livres que j'avais lus, la proximité de la littérature, ça me fait choisir ce métier.
Donc c'est vrai, votre père est écrivain, mais vous avez choisi d'ailleurs le nom de votre mère comme nom de plume. Ça veut dire que vous faites une différence? Vous ne voulez pas que vos livres soient associés les uns aux autres?
Non, ça c'est pas la raison. En fait, c'est une question d'égalité femme-homme. Parce que ma sœur, elle a le nom de mon père. Et moi, j'ai le nom de ma mère. Mais peut-être au début, mon père, il est très réputé dans mon pays. Hein, et c'était plus facile un peu pour faire la différence. Mais maintenant, peu importe. Hein. On a deux parcours littéraires très différents. Mais je pense que ça va bien.
Avant de devenir écrivain à Slacknor et avant de publier ces romans qui ont été traduits en français et dont on va parler dans un instant, vous avez eu beaucoup de vie professionnelle. Vous avez été journaliste, grand reporter, vous avez travaillé dans plusieurs pays, aux États-Unis, vous avez été éditeur, vous avez écrit des livres aussi un peu plus techniques sur les renseignements généraux. Est-ce que c'est toutes ces vies qui font qu'à un moment vous devenez romancier ?
Bon, je pense que je suis pas sûr si c'est nécessaire d'avoir vécu une vie avec beaucoup d'aventures et beaucoup de suspense pour devenir écrivain. Par contre, la génialité avec la littérature, c'est possible de faire toutes les choses différentes. On a des écrivains très célèbres qui passaient toute leur vie dans leur chambre. Mais pour moi, mon style de littérature, c'est plutôt un mélange thriller, saga familiale, roman d'aventure. Je pense qu'un certain type d'expérience, c'est un avantage. Et donc, par exemple, j'étais soldat quand j'étais très jeune. Ça, c'était juste après le lycée. J'ai passé 2-3 ans avec le bataillon de Telemark, qui est un bataillon de haut niveau en Norvège. Et aussi à Bosnie. C'était pendant la guerre en Kosovo, en fait, et dans la fin du siècle. Mais je pense que c'était une expérience forte pour aussi un jeune homme comme moi. Et en même temps, je pense que j'ai appris la langue militaire que je pense que pas beaucoup d'écrivains connaissent. À cette époque-là, c'était juste ma vie, évidemment. Mais après, quand je commençais comme reporter, j'ai compris qu'en fait, ça me donnait des accès à des gens qui, normalement, ne parlent pas avec la presse. Au fur et à mesure, je compris que, OK, les agents secrets des forces spéciales, etc., ils me racontaient des histoires que je ne pouvais pas publier comme reporter, en fait, parce que c'était clandestin, etc. Et je pensais, je peux mettre toutes ces types de histoires peut-être dans un monde fictif. Bon, si on fait ça, c'est pas interdit. Ça, c'est aussi une chose que ça me plaît beaucoup avec la littérature. On peut faire quelque chose qu'on veut. Hein. Mais toutes mes expériences avant, ce n'était pas pour devenir écrivain. C'était plutôt, au fur et à mesure, j'ai compris que okay, peut-être ça me donne une certaine perspective et des histoires que je voulais écrire.
Donc, vous avez été soldat, vous avez été journaliste, on l'a dit. Est-ce que vous avez été espion à une époque?
Je peux pas vous dire. Hein.
Sinon, vous devez me tuer, c'est ça?
Ah non, ça c'est le cliché. Hein.
Oui.
Mais forcément, c'est juste que c'est une communauté un peu fermée pour la plupart des gens. Et donc, c'est sûr que je connais beaucoup de gens dans ce monde, ça c'est sûr.
J'en parle parce que le monde du renseignement, il est très présent aussi dans les deux livres que vous avez publiés. Ce sont deux livres qui à la fois s'inscrivent dans une même famille, mais qui se lisent vraiment de façon tout à fait indépendante. Il y a d'abord eu Le cimetière de la mer et maintenant Les héritiers de l'Arctique. Et effectivement, on le disait tout à l'heure, la mer, l'océan, c'est un lien qui vous relie dans cette vie ici à Marseille et dans cette œuvre littéraire, puisque dans le premier, c'était aussi un naufrage qui était au cœur du cimetière de la mer. Est-ce que vous diriez que c'est cet élément-là aussi qui devient le moteur de votre écriture ?
Oui, mais je pense que pour donner un peu de contexte, en fait, au fond de cette histoire, c'est une famille, la famille Falk. C'est une famille puissante, riche, avec beaucoup de guerres de succession et divisée dans 6 clans à Oslo et en autre à Bergen, la deuxième ville de Norvège. Ils ont créé leur fortune comme armateurs. C'est aussi un rapport avec Marseille, parce qu'on sait très bien que si, souvent les armateurs français viennent de Marseille. Mais bon, je pense que la plupart de ces fortunes norvégiennes, historiquement, s'étaient créées. En même temps, la plupart de mes compatriotes viennent des origines très simples. Hein. C'est-à-dire que si la mer, c'est vraiment vivant dans l'histoire de presque toute la famille norvégienne, en fait. Par exemple, il y a beaucoup de Norvégiens qui ont leur famille, qui est perdu, un père, un oncle, un fils, surtout, sur la mer. Et je pense que pour ça, c'est devenu une chose presque un peu mythologique dans mon pays.
Donc j'entends bien, Slaknor, que la mer, c'est presque l'ADN des Norvégiens. Mais ici, la famille Falk que vous mettez en scène à nouveau, ce n'est pas une famille ordinaire, ça, ce n'est pas une famille typiquement norvégienne. Qu'est-ce qui vous fascine dans ces familles super puissantes et super riches ?
Je pense que la famille, c'est peut-être le sujet plus universel qui existe. N'importe quel pays, n'importe quelle origine sociale qu'on a, on vient toujours d'une famille, d'une manière ou d'une autre. Je pense que quand je commençais le saga, j'avais à peu près 40 ans. Et ça me donnait une certaine perspective de regarder mes parents qui étaient et sont toujours vivants. Et aussi la génération après, si ma fille, mes nièces, etc. etc. Je pense que si ce type de question se devient plus en plus importante avec un certain âge, parce qu'avant, quand j'étais jeune, j'avais plutôt aussi. J'écris toujours sur aussi de certains types d'existentialisme, d'agents secrets. Et c'est un peu plus limité. Mais je pensais que, OK, avec ce type de famille, c'est une famille qui peut-être se ressemble à une famille en France, à l'Italie, ou en Pakistan, je ne sais pas, peu importe. Mais en même temps, ils sont mis dans son contexte. Qu'est-ce qu'un contexte très norvégien, c'est avec le fjord, avec le glacier, avec la vie maritime, tout ça. Et en même temps, le sujet universel.
Ici, l'enjeu du roman, c'est que dans le cadre de la succession, de la division entre les membres de la famille pour récupérer le pouvoir, il y a aussi l'existence d'un espion. On apprend que un des membres de la famille pourrait espionner pour les Russes. Et de fait, une partie du roman se passe dans cette région du Svalbard, qui est une région très particulière, justement un peu à la frontière. Alors je précise tout de suite que l'action se déroule en 2016, avant l'invasion de la Russie en Ukraine. Évidemment, c'est important de le souligner. Je reste juste une seconde sur cette question d'espionnage. Parce qu'en exergue, c'est une citation de Kim Philby, ce grand espion anglais qui a servi pendant des années les Russes, qui dit « Pour trahir, il faut appartenir ». Est-ce que vous, à Slaknor, vous avez une passion pour Kim Philby? Ou en tout cas, est-ce que Kim Philby vous fascine? Est-ce que la figure de l'espion en général vous fascine? Quel est votre lien avec ça?
Oui, on a aussi, si c'est en version norvégienne, Kim Philby, qui m'obsédait à un moment, même si son rôle c'est un peu plus ambivalent en fait. Et peut-être l'ambivalence, c'est la chose qui me fascine avec l'espion, parce que pour prendre une chose, il faut qu'on sacrifie un autre en fait. Ça c'est la base de tout le drame, c'est comme le grand écrivain américain William Faulkner, il a cette citation, c'est « Only thing worth writing about is a human heart in conflict with itself ». Et je pense que l'espionnage, ça me fascine précisément à cause de ça, parce que c'est comme vous faites un choix, et un choix avec des grandes conséquences, et en même temps, comment on peut vivre avec ce choix, qu'est-ce qu'il y a, le sacrifice, et ça m'intéresse.
L'espion, c'est une figure héroïque.
Surtout une figure tragique, je pense. Presque toutes les histoires d'espions finissent mal. Hein. Et donc, je pense que c'est plutôt des histoires très tragiques. If you love me, please don't judge me. Got my hands tied, the powers above me. Don't shoot the messenger, I'm just a puppet here. If you want to place blame, then look to the puppeteer. Family, fortune, envy, jealousy, privilege, passed on, legacy, secret, sabotage, borderline, felony, suicide, subtract, selfish, pedigree. When the love's gone and the hate's there, better watch out, cause it's cake thin. When your family ain't your family, and your legacy is just a name there. In your mother's eyes, it's a blank stare, but your father's picking who remains here. It's a power struggle, it's a tug of war that's amongst the kids, and it ain't fair. Yeah. Who gon' stop the pain? Who gon' block the drain? Who gon' stop the shame? We are not the same. Walking a tightrope in a lifeboat, nope. Just a free fall when I leave y'all, whoa. If you love me, please don't judge me. Got my hands tied, the power's above me. My bloodline was not chosen. Ooh. This bank account is not frozen. This thing of ours is not broken. What's understood is not spoken. If you love me, please don't judge me. Don't judge me. Family, fortune, envy, jealousy, privilege, passed on, legacy, secret, sabotage, borderline, felony, suicide, subtract, selfish, pedigree. Yeah.
Et nous revenons à Marseille avec une émission Littérature sans frontières spéciale sur RFI, puisque nous sommes accueillis par l'écrivain norvégien Aslak Nord, dont on peut lire en français aux éditions Le Bruit du Monde, Les Héritiers de l'Arctique, qui est un deuxième roman qui s'inscrit dans le précédent, Le Cimetière de la Mer, mais qui en même temps se lit de façon tout à fait détachée. On l'a un peu expliqué en première partie, c'est un roman qui se passe en Norvège et qui raconte la succession d'une famille qui se déchire autour d'enjeux de pouvoir, d'enjeux financiers et puis d'enjeux géopolitiques, puisqu'il y a un espion qui pourrait justement donner des renseignements pour les Russes. Là, à Aslak Nord, maintenant je vais m'adresser à vous en tant que journaliste aussi, parce que aujourd'hui, la réalité fait que la Russie est devenue l'ennemi de l'Europe. Comment est-ce que vous vivez ça, vous qui êtes norvégien, qui dans ce livre mettez en lien les relations qu'il y a eu pendant des années entre les deux peuples, surtout autour de cette région du Svalbard, qui est un lieu où les deux peuples se retrouvent. Comment est-ce que vous vivez la situation aujourd'hui ?
Non, c'est une situation compliquée, évidemment. Et vous parlez de Svalbard. Et je grandis dans une ville qui s'appelle Kirkenes, juste à la frontière russe. Kirkenes, c'est une ville très particulière. Hein. C'est avec des panneaux russes, très proche avec le peuple russe. On dit peut-être à un niveau un peu rigolant que c'était le seul endroit où tout le monde s'est pleurant le moment quand Staline est mort, parce que Kirkenes a cette histoire très différente. C'était libéré par-ci à l'armée rouge. Pour ça, c'est un sentiment très fort de remerciement vis-à-vis les Russes. Je passais 5 ans là-bas quand j'étais très petit, en fait. Et ma mère était médecin là-bas. À cette époque-là, c'était pendant la guerre froide, à la fin de la guerre froide. Mais on sentait ce type de fraternité entre les Norvégiens et les Russes. Maintenant, ça a changé. Hein. Les gens là-bas sont évidemment dévastés par la guerre en Ukraine. Ils sont aussi accueillis à pas mal de réfugiés ukrainiens dans leur ville, etc. Mais en même temps, ce type de proximité entre les deux peuples continue. Et même chose à Svalbard. Et Svalbard, ça, c'est un endroit encore plus particulier, peut-être, parce que ça, c'est un archipel entre la Norvège et le pôle Nord. C'est sous la souveraineté norvégienne, mais c'est aussi un endroit avec des petites communautés, presque des petites villes russes. Imagine, c'est juste On a, dans le territoire de les pays occidentaux, en Norvège, on a des communautés russes avec des statues de Lénine, avec des architectures communistes, etc. Ça existe. Et donc, Svalbard aussi a ce rapport compliqué avec la Russie qui est très proche, mais en même temps très compliqué maintenant. Mais moi, oui, je pense que je n'étais pas trop étonné. Je suis un peu cynique. Mais en même temps, comme tous les gens dans le nord de Norvège, je suis passé beaucoup de temps avec le russe et on a aussi des rapports personnels en fait. Et pour ça, évidemment, c'est difficile. C'est choquant. Si je peux dire, ça ne m'étonne pas, mais ça me choque, si vous comprenez.
Ça veut dire quoi concrètement aujourd'hui en Norvège? Il y a des Norvégiens et des Russes qui se parlent, compte tenu de la promiscuité géographique?
Beaucoup moins qu'avant. Mais à Svalbard, il y a un Spitsbergen, c'est la ville principale s'appelle Longyearbyen. Et ça, c'est une ville norvégienne, mais c'est aussi une ville très cosmopolite. Il y a beaucoup de guides français, italiens, américains, etc. etc. Et donc, maintenant, c'est moins de Russes à Longyearbyen qu'avant. Mais il y a, hein, c'est pas interdit. Il y a, comme écrivain de livres sur l'espionnage, je peux pas. Il faut que je visite ce type d'endroit. Et donc, je visitais Barentsburg et c'était touchant. Hein.
Est-ce que ça veut dire que la guerre en Ukraine pourrait être un élément narratif que vous intégreriez dans vos prochains romans?
Ouais, en fait, je suis un peu tenté maintenant d'aller en Ukraine, c'est vrai. Mais en fait, avant, quand j'étais célibataire, et sans enfant, etc., j'ai acheté un ticket dans les endroits comme ça tout le temps. Et je suis passé beaucoup de temps en Afghanistan, Iran, Syrie, Liban, tout ça. Mais maintenant, après les responsabilités parentales, je ne peux pas faire ça. Mais évidemment, c'est un dilemme pour moi. C'est un côté de moi qui est un peu tenté par l'idée de visiter l'Ukraine. Et franchement, ce n'est pas très compliqué non plus. Hein. Ce n'est pas forcément le journalisme de guerre si vous êtes loin de front. À Kiev, Lviv, etc. C'est tout à fait possible. Et à la main, je ne connais pas et ça me donne envie, oui.
Mais là, c'est le journaliste qui parle. Mais le romancier, il pourrait intégrer la guerre en Ukraine dans ses romans sans forcément aller sur place, ou
oui.
Pas
Oui, mais comme je disais un peu avant, c'est comme, je pense que si, pour moi, c'est très important de créer un monde qui est très réel, en fait. Oui, évidemment, on peut regarder toutes les émissions et lire tous les livres, etc., mais c'est pas la même chose. En fait, je pense que ma méthode, c'est toujours, je commence convaincre les lecteurs qu'en fait, je connais ce monde. Mais quand les lecteurs, j'espère, je suis convaincu, je commence à mentir.
Vous manipulez le lecteur et vous mentez. C'est pas bien ça, Slaknor.
Hein? Ah oui, mais je pense que c'est comme écrivain, c'est peut-être c'est le métier où tu es censé de faire ça.
Ouais. Encore une question importante. Les héritiers de l'Arctique, on l'a dit, c'est en effet un roman d'espionnage, un roman d'aventure, une saga familiale, mais il y a aussi tous ces grands thèmes sociétaux et par exemple le changement climatique. Et ici, c'est très intéressant de voir que vos personnages sont au premier plan de la fonte des glaciers et pour certains, ça devient de nouvelles voies de marchandisation, de communication. C'est très cynique ça.
Oui, mais pour expliquer un petit peu, en fait, on a parlé un peu de Svalbard, cet archipel de Svalbard. Svalbard, c'est probablement l'endroit à niveau mondial où le réchauffement climatique va le plus vite, parce que c'est presque le pôle Nord. Historiquement, presque tout à Svalbard, c'était sous la couverture de la glace, et de glacières, etc. Mais maintenant, quand si la Terre fondre, s'ouvre certaines possibilités pour les gens qui veulent s'enrichir, par exemple.
Mais c'est quelque chose que vous critiquez, ce cynisme?
Je pense que je suis pas un moraliste quand j'écris. Hein. Moi, je veux juste créer un certain scénario et les gens peuvent donner leur opinion. Bon, évidemment, je suis très angoissé pour le changement climatique, mais dans mon roman, il y a des gens qui sont angoissés pour ça, mais aussi des gens un peu limite climato-sceptiques. Et donc, je pense que c'est plutôt en réflexion de le monde réel.
Et du coup, qu'est-ce que le roman peut faire de plus qu'un article de journal ?
Bon, je pense que la chose plus importante pour un roman, c'est que, par exemple, si, quand je parlais de certains dilemmes, le dilemme de William Faulkner, en cœur en conflit avec lui-même, je pense que si la littérature, c'est idéal pour juste présenter certains types de les dilemmes qu'on a tous dans notre vie. Hein. C'est juste que, OK, pour être un écrivain formidable, est-ce que je suis obligé de sacrifier la relation avec ma fille? Je dis pas oui, mais c'est un vrai dilemme. Et on a tous des dilemmes comme ça. Et c'est ça que je pense que la littérature fait mieux que si le journalisme.
La littérature, c'est le lieu du dilemme. Et le journalisme, c'est quoi? C'est le lieu de la vérité, de la réalité?
Je suis pas sûr, mais non, mais je pense que pour moi, je pense plutôt que si, par exemple, le genre de polar et le grand roman, le fresque sociale de 19e, c'est très bien pour juste parler de certains sujets sociaux aussi. Hein. Et je pense que j'ai appris beaucoup de si la société française, quand j'ai lu, par exemple, si le grand série d'Émile Zola, par exemple, ou Balzac, par exemple, Victor Hugo aussi, hein, on apprend beaucoup de c'était comment cette société à cette époque-là. Et je pense qu'avec toute la modestie, peut-être c'est possible de faire une chose un peu pareille.
C'est ça votre ambition comme écrivain, Aslak Noor ?
Oui. Mais évidemment, c'est comme toutes les ambitions sont à la base tragiques, hein, parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas, même si on réussit avec certaines choses, c'est un divertissement. Mais je pense aussi, dans cette chambre, c'est possible de faire des choses intéressantes.
On va bientôt se quitter à Aslak Noor. Juste, je voulais préciser que, encore une fois, ces deux livres peuvent se lire indépendamment. Néanmoins, il se trouve que la fin du deuxième correspond exactement au début du premier. Alors on se dit, est-ce que la boucle est bouclée ou est-ce que vous allez écrire la suite aux aventures terribles de la famille Falk ?
Oui, en fait, je suis un peu pressé maintenant parce que je suis en train de finir la première version de troisième. Mais évidemment, on ne peut pas arrêter maintenant. Hein. Si vous lisez le dernier chapitre de deuxième, j'espère que c'est un cliffhanger pour ensuite. Hein.
Je vous le confirme, c'est en effet un bon cliffhanger. On a très envie de lire la suite. Merci beaucoup de nous avoir reçus ici chez vous à Marseille. Pour parler de ce deuxième roman en particulier, Les héritiers de l'Arctique, qui a donc été traduit du norvégien par Lou Maël Besançon, un livre qui a paru aux éditions Le Bruit du Monde, votre éditeur français. Merci d'avoir parlé en français, cette langue qui n'est pas votre langue maternelle, mais je vois bien que vous la prenez à bras-le-corps. D'ailleurs, vous écrivez page 113, « Tout semble mieux quand c'est dit en français ». C'est ce que vous pensez ?
Oui, quand le français parle, oui. Mais quand je parle, je m'assure. Mais c'était un vrai plaisir de vous accueillir ici, en fait.
Bonnes vacances, bonne écriture.
Oui, il y a bonnes vacances à vous aussi.
C'est très gentil, merci beaucoup.
Littérature sans frontières, Catherine Frujon-Toussaint, Apolline Verlon.